Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux infections sexuellement transmissibles. À l'ordre du jour ce soir, la crainte des IST a-t-elle disparu ? Depuis 10 ans au moins, les institutions françaises de veille sanitaire alertent sur une augmentation régulière des infections sexuellement transmissibles. Mais la dernière des alertes en date européenne, celle-là, a paru il y a une quinzaine de jours et a noté une augmentation générale des chlamydioses, des maladies à gonocoques et de la syphilis. Car même si la plupart de ces maladies peuvent être soignées par antibiotiques, elles peuvent donner lieu, selon les personnes touchées, à des complications. Quelles sont les causes de cette recrudescence de maladies dont, comme la syphilis, on annonçait au début des années 2000 la disparition prochaine. Nous allons en discuter avec nos trois invités. Nathalie Bajos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et présidente du Conseil national du SIDA. Avec nous, Anan Mouin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du Checkpoint Paris, un centre de santé sexuelle dédié aux personnes LGBTQI+, et aux travailleuses et travailleuses du sexe. Et avec nous, effectivement, également, docteur Victoria Manda, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital Saint-Louis, à Paris.
In 2022 alone, more than 70,000 cases of...
Rien qu'en 2022, plus de 70 000 cas de gonorrhée ont été signalés dans l'Union européenne et l'espace économique européen. Il s'agit du nombre annuel le plus élevé de la dernière décennie, une augmentation de 48% par rapport à 2021. Cette augmentation est aussi stupéfiante qu'inquiétante. Ces chiffres, aussi importants soient-ils, ne représentent probablement que la partie émergée de l'iceberg, car les données de surveillance peuvent sous-estimer le véritable fardeau de la syphilis, de la gonorrhée et de la chlamydia en raison des différences dans les pratiques de dépistage, l'accès aux services de santé sexuelle et les pratiques de déclaration dans les pays.
C'était Andrea Amon, directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies en Suède en octobre dernier. Est-ce que cette alerte stupéfiant, inquiétant, vous paraît de bon aloi ou est-ce que c'est un peu inquiété les populations européennes pour peu de choses ? Qu'est-ce que vous en pensez, Victoria Manda ?
Eh bien, c'est vrai que quand on entend là, ces chiffres, ça peut paraître très alarmant, mais en réalité, il y a quand même quelques explications à cela. C'est vrai que déjà, on a considérablement amélioré nos méthodes de dépistage avec des PCR qui sont de plus en plus sensibles pour repérer l'infection à gonocoque, l'infection à chlamydia et des très bons tests aussi pour la syphilis. Et à côté de ça, on a également beaucoup augmenté le dépistage. C'est-à-dire que là, depuis 2014, on a eu une augmentation, on a doublé notre taux de dépistage. Pour un taux de dépistage chez une personne une fois par an, ça a doublé là depuis 2014, et voire même chez les hommes qui sont âgés entre 15 et 25 ans, ça a triplé. Donc on dépiste beaucoup plus et on va aller diagnostiquer des infections qui étaient parfois asymptomatiques et qu'on va traiter plus tôt et qui vont permettre d'empêcher la contamination à d'autres partenaires. Donc tout ça explique aussi ces chiffres de diagnostic, l'augmentation du dépistage, et peuvent un petit peu nous rassurer quand même sur ces chiffres alarmants.
Anan Mouim, quand nous avons annoncé dans les couloirs de la maison de la radio, auprès des gens qui travaillent dans les bureaux adjacents, quand nous faisions une émission sur les IST, ils ne savent pas très bien, ces personnes, la différence entre ce qu'on appelait les MST auparavant et les IST. Est-ce que vous pouvez pédagogiquement nous expliquer cela ?
Alors, une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Une MST, c'est une maladie sexuellement transmissible. Effectivement, aujourd'hui, on parle plus d'infection que de maladie, puisque, comme l'a dit Victoria, la majorité des infections sexuellement transmissibles sont asymptomatiques. Et du coup, on parle plus, effectivement, d'infection que de maladie.
Quels sont les types de maladies, justement, que l'on classe sous cette dénomination, Victoria Manda ?
Alors du coup, on en a déjà un peu parlé, il y a déjà l'infection à gonocoque, la syphilis, également l'infection à chlamydia, pour lequel nous avons des traitements qui fonctionnent bien aujourd'hui. Il y a également, on peut parler du VIH dans les infections sexuellement transmissibles, puisqu'il y a une transmission sexuelle de l'infection par le VIH. Et puis, il y a aussi d'autres infections dont on parle un petit peu moins, l'infection à Mycoplasma genitalium, qui fait à peu près les mêmes symptômes que l'infection à chlamydia. Et il y a également l'infection à papillomavirus, dont il faut parler, puisque il y a une grande campagne de vaccination en ce moment contre ce virus et donc qui rentre aussi dans les infections sexuellement transmissibles. Un peu à part, on peut parler aussi de l'herpès, mais je pense que les premières sont vraiment celles dont on peut parler aujourd'hui.
Avec la difficulté, peut-être un anouim de se dire que le papillomavirus a été d'abord cette infection a touché d'abord les jeunes filles en disant il faut d'abord vacciner les jeunes filles et que la vaccination des jeunes garçons aujourd'hui ou des hommes est beaucoup plus difficile à faire accepter, donc ça ne va pas très vite, pourrait-on dire aujourd'hui.
Alors, je ne sais pas si elle est beaucoup plus difficile à faire accepter, parce que justement, tout à l'heure, je parlais avec un infectiologue qui vaccine dans les écoles, et notamment dans les écoles du 93, et il disait que c'était plutôt qu'il y avait une parité dans la vaccination chez les jeunes filles et chez les jeunes garçons. Après, si les jeunes femmes, enfin si les femmes se contaminent au HPV, c'est bien que ça se transmet aussi. Donc c'est vrai qu'il faut changer notre manière de penser et utiliser la vaccination du HPV comme de la prévention. Le HPV est responsable quasi de 100% des cancers du col de l'utérus. Et donc, c'est important de pouvoir à la fois proposer la vaccination et aussi de se faire dépister.
On célébrera les 30 ans du SIDAction ce week-end, je crois. Nathalie Bajos, vous dirigez le Conseil national du SIDA, qui va avoir des fonctions un peu différentes, avez-vous annoncé lorsque vous avez été nommée à ce poste, qui va s'élargir justement à d'autres questions qui sont liées à la sexualité.
Oui, absolument. Le Conseil national du SIDA va avoir très prochainement ses missions s'élargir à la santé sexuelle en général, ce qui est un champ extrêmement large, donc qui recouvre aussi bien les enjeux liés évidemment à la contraception, à l'avortement, mais aussi aux droits des minorités sexuelles et de genre, aux droits sexuels en général, aux violences, au harcèlement. Enfin, c'est un vaste champ si on reprend la définition de l'OMS qui renvoie à tous les enjeux liés à la sexualité. Et donc, l'objectif SIDA ne disparaît absolument pas, mais c'est une perspective d'abord qui répond à l'évolution internationale. On parle vraiment maintenant de santé sexuelle et ça a un avantage en plus par rapport au VIH, c'est que ça permet une approche qui s'appuie davantage sur une perspective qui est moins médicalisée et qui travaille vraiment sur les déterminants sociaux des risques liés à la sexualité et de pas raisonner en silo avec d'un côté ce qui concerne le VIH, de l'autre la contraception, l'avortement. Donc je dirais que pour toutes ces thématiques-là et celles qui nous préoccupent aujourd'hui, c'est vraiment une approche extrêmement intéressante et beaucoup plus efficace d'un point de vue de santé publique. Voilà.
Quel est le lien, Victoria Mandin ou Anan Mouhim, entre justement la question du sida et la question donc de cette augmentation des infections sexuellement transmissibles? Y en a-t-il? Et expliquez-nous s'il y a un lien justement avec l'augmentation progressive de ces infections dont on parle depuis le début de cette émission.
Du coup,
Victoria Mandin.
Merci. On dit, c'est vrai que désormais, nous, médecins, et également dans les centres de santé sexuelle, on essaie de faire une prise en charge globale de cette santé sexuelle. Depuis 2016, il y a quelque chose de très innovant qui s'est passé, c'est qu'on a prescrit la PrEP.
Alors, il faut expliquer à nos auditeurs ce qu'est la PrEP.
La PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition du VIH. C'est le fait de prendre un comprimé qui va empêcher le VIH de rentrer dans le corps si on est en contact avec le VIH lors d'un rapport sexuel. Et donc cette PrEP, en fait, on la prescrit vraiment dans des consultations de santé sexuelle. Et vu qu'on prescrit de la PrEP pour prévenir le VIH, on fait aussi le dépistage de toutes les infections sexuellement transmissibles dont nous venons de parler, chlamydia, gonocoque, syphilis.
Dans un même examen, vous voulez dire?
Exactement. On fait une prise de sang, on voit le patient et on propose la PrEP. Et donc, on a fait en fait des suivis très réguliers des patients sous PrEP tous les 3 mois. Et on a dépisté chlamydia, gonocoque, syphilis tous les 3 mois. Et c'est vrai que certains patients nous disaient, mais avant la PrEP, j'avais pas d'infection. Et là, maintenant, tous les 3 mois, je me retrouve avec une infection. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on dépistait des infections qui étaient asymptomatiques. Et la personne qui était asymptomatique pouvait quand même transmettre l'infection en question. Donc, il faut se dire que la PrEP, c'est un outil global de santé sexuelle. Ça n'a pas fait augmenter les IST. Ça nous a juste fait plus les dépister, les traiter avant qu'elles soient
symptomatiques. Et on est vraiment sûr de cela. Ça n'a pas fait augmenter les IST.
Disons que, après, il y a autre chose qui est rentrée en compte. C'est qu'il y a eu aussi l'ère du Covid au milieu de tout ça. Avec un changement, quand même, de pratique avant et post-Covid, et une perte du préservatif après Covid qui a pu accélérer les choses.
Nathalie Bajos.
Non, mais c'est pour aller tout à fait dans le même sens et l'exemple du fait que toute une série de pathologies puisse être dépistée dans le cadre d'une même consultation, c'est aussi un avantage très important de raisonner en termes de santé sexuelle et pas uniquement en termes d'infection à VIH. Après, je crois, et c'est encore une fois la perspective santé sexuelle globale, c'est de considérer qu'il y a une palette de moyens de prévention et que les individus peuvent se saisir de l'un ou l'autre. Il est clair que la PrEP, qui est extrêmement efficace pour avoir permis de contribuer à réduire très sensiblement la diffusion de l'épidémie d'infection à VIH, même si celle-ci est loin d'être terminée. Pour autant...
C'est combien d'infections par an, par exemple, en France aujourd'hui, on est à quelques milliers?
Oui,
sur 5 000.
Entre 4 et 5 000. Mais, par exemple, la PrEP n'est pas du tout efficace, évidemment, pour les IST. Et pour les IST, c'est le préservatif. Et on sait qu'un certain nombre de personnes qui peuvent utiliser la PrEP vont avoir moins tendance à utiliser le préservatif. Et d'où la nécessité d'avoir cette approche globale sur les différents moyens de prévention qui peuvent être utilisés et la nécessité d'utiliser, de continuer à utiliser des préservatifs par rapport aux IST, parce que c'est la seule méthode efficace.
Anan Mouhim, justement, sur cette question de la perte de cette habitude du préservatif, justement parce que la PrEP arrivait et qu'elle permettait d'avoir un médicament qui permettait justement de ne pas être infecté.
Alors, il y a une étude qui est menée auprès des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, donc les HSH, qui est menée tous les ans depuis 2017, qui s'appelle le rapport ERAS, voilà. Et du coup, effectivement, dans cette étude, elle étudie le comportement
C'est Santé publique France qui l'a publié.
Tout à fait. Et du coup, elle étudie le comportement des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Et effectivement, on voit une diminution du préservatif depuis 2017, avec une augmentation forte de l'utilisation de la PrEP. Par ailleurs, les nouvelles infections au VIH diminuent en France aujourd'hui, donc c'est vraiment une avancée qu'il faut souligner.
Mais cela les autres étant, infections sexuellement transmissibles peuvent augmenter.
Cela étant dit, on a des infections, les infections tardives au VIH, les diagnostics tardifs au VIH malheureusement ne diminuent pas.
Bien sûr.
L'important, c'est de, comme vous le disiez tout à l'heure, de diversifier les modes de prévention. Donc, un outil ne remplace pas l'autre. Le préservatif peut être utilisé autant que la PrEP, d'augmenter le dépistage et surtout de diminuer le délai entre le dépistage et le traitement. Et aujourd'hui, on a, enfin, cette stratégie innovante qui nous permet de diminuer le délai du dépistage entre le dépistage et le traitement existe. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut continuer à favoriser.
Est-ce que les pratiques sexuelles ont changé? Vous disiez tout à l'heure 2020, ça a été très important avec ce qui s'est passé pendant le confinement et tout ce qui s'est passé autour de la Covid. Est-ce que les pratiques sexuelles ont changé? J'ai lu dans la documentation qui m'a été fourni que, par exemple, les pratiques, la banalisation des rapports orogénitaux était très importante et qu'au bout du compte, effectivement, cela pouvait avoir des conséquences sur l'augmentation des IST. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cela, Victoria Manda?
Non, oui, effectivement, après, il est difficile d'avoir vraiment des chiffres très concrets sur ça, mais c'est sûr qu'il y a un avant et un après Covid. Ça, c'est certain, puisque effectivement, on l'a vu, en 2020, il y a eu une diminution énorme du dépistage et donc du diagnostic, mais bon, très difficile à interpréter. Et donc, effectivement, il y a eu ce relâchement, je dirais, post-Covid avec... lors de la sortie de l'épidémie, la sortie de ce confinement, un relâchement, moins de port de préservatifs. Et effectivement, je pense qu'il est bon de promouvoir aujourd'hui PrEP et préservatifs et prise en charge globale de la santé sexuelle.
Nathalie Bajos.
Oui, c'est une vraie question, hein, l'évolution des pratiques sexuelles en lien avec le sujet.
Vous êtes sociologue, vous avez beaucoup travaillé.
Oui, et je travaille encore dessus.
Voilà, sur ces questions des évolutions.
Je vais faire une réponse très rapide. Dans quelques mois, vous aurez les résultats de la grande enquête nationale sur les sexualités et la santé sexuelle qui vont sortir à la rentrée là, de 2024. Mais bon, en attendant, il faut s'appuyer sur ce qu'on a. On a vu quand même dans d'autres enquêtes sur le Covid qu'effectivement, bon, il y avait ces épisodes de confinement qui ont rendu, d'une manière générale, l'accès aux soins très difficile et en matière de dépistage, comme vous venez de le souligner. Pour autant, l'impact de cette épidémie sur l'activité sexuelle, c'est beaucoup plus discute, ça beaucoup plus discutable. Mais pour autant, on sait aussi que l'évolution des pratiques sexuelles sur le long terme dans la société française, même si on attend les prochains résultats, joue quand même beaucoup dans le sens d'une diversité croissante. C'est un mouvement qui s'inscrit dans le temps des pratiques sexuelles, du nombre de partenaires,
bisexualité,
nombre de partenaires, des relations plus courtes, des pratiques sexuelles plus diversifiées, effectivement. Et donc autant de caractéristiques, je dirais, qui explique qu'il puisse y avoir plus d'exposition à des risques d'IST. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que c'est vrai que le point majeur, c'est on dépiste plus, donc on voit cette augmentation qu'on rappelait en introduction. Mais même si on dépiste plus et qu'on voit cette augmentation, il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre d'autres indicateurs qui laissent à penser qu'il peut y avoir plus de prise de risque de par l'évolution des pratiques sexuelles, peut-être, et puis de par les pratiques de prévention et l'absence de politiques marquées dans ce domaine, et toujours cette éternelle question de l'éducation à la sexualité sur laquelle on va y venir,
bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a une réception genrée, pardon, de ces infections sexuellement transmissibles, Anan Mouhim? C'est-à-dire, est-ce qu'elles touchent, vous parliez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais est-ce qu'elles touchent des femmes bisexuelles, des hommes bisexuels, etc., de façon différente? Est-ce que l'on peut dire cela, ou est-ce qu'on ne le sait pas?
Alors oui, il y a certaines infections qui touchent plus les hommes que les femmes. Donc ça, c'est très bien décrit par Santé publique France, notamment la syphilis qui touche effectivement plus les hommes que les femmes.
Syphilis dont je disais qu'au début des années 2000, on pensait qu'elle allait être éradiquée comme la variole avait été éradiquée, par exemple. Ça faisait partie des projections qu'on pouvait faire. Mais là, ce n'est pas le cas.
Et puis, il y a certaines infections qui touchaient plus les femmes que les hommes. Et aujourd'hui, qui touche, comme les infections à chlamydia, je te regarde, Victoria, mais c'est bien ça, qui touche aujourd'hui plus les hommes que les femmes.
Victoria Manda.
Oui, effectivement, que la chlamydia, effectivement, c'était plus souvent les femmes qui étaient atteintes. Et là,
avec des conséquences à long terme, exactement, pour les femmes, extrêmement dangereuses, en particulier sur la question de la fertilité.
Vous avez raison, ça faut vraiment en parler. C'est vrai que l'impact de la chlamydia chez la femme et chez l'homme, ça n'a rien à voir. Chez l'homme, il y a peu de conséquences, à part qu'il y a vraiment des symptômes qui sont désagréables quand l'infection est symptomatique. Mais le traitement marche bien. En revanche, chez la femme, cette infection, elle est très souvent asymptomatique et elle peut faire vraiment des dégâts au niveau tubaire qui font qu'il peut y avoir des risques d'infertilité secondaire. Donc avec vraiment un gros fardeau de cette maladie qui pèse sur les femmes. On a l'impression que pour la chlamydia, chez la femme, ça commencerait à se stabiliser. En revanche, chez l'homme, ça augmente. Et pour gonocoque, chez l'homme, c'est 4 fois plus présent. Et pour syphilis, chez l'homme, c'est 8 fois plus présent. Donc vraiment, pour la syphilis et pour la gonocoque, on a vraiment plus d'infections chez les hommes.
Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Mmh. Et se surajoute à ces différences de genre également des différences sociales marquées, et on retrouve pour beaucoup d'infections sexuellement transmissibles une surreprésentation des personnes migrantes. Hein, et ça renvoie toujours à cette question des situations de vulnérabilité qui rendent plus difficile l'accès à la prévention et qu'on retrouve dans les statistiques sur le sujet.
Avec peut-être aussi une difficulté, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même connaissance des questions des infections sexuellement transmissibles selon les pays dont ils sont originaires. On peut dire qu'il y a des traditions qui sont peut-être plus ancrées dans certains pays que dans d'autres, et que donc, quand on arrive sur le territoire français, on ne sait pas exactement comment se passe tout cela selon les pays dont on est originaire. Vous n'êtes pas d'accord, Anan Mouhim?
Là, pour le coup, je vais parler du VIH spécifiquement, parce qu'il y a une étude qui décrit très bien, qui s'appelle l'étude Parcours, qui décrit en fait comment on avait avant cette étude un peu l'idée reçue que les personnes originaires notamment d'Afrique subsaharienne arrivaient de leur pays d'origine avec le VIH en France. En réalité, comme vous l'avez dit, ce sont les facteurs de vulnérabilité, le cumul de facteurs de vulnérabilité qui est responsable de la contamination des personnes migrantes qui arrivent sur le territoire et notamment d'Afrique subsaharienne en France qui se contaminent dans, dans les six premières années d'arrivée sur le territoire.
Oui, c'est vraiment pas une question. Oui, je permets de rebondir sur ce point-là parce que effectivement, c'est ce qu'on avait montré dans l'étude parcours et on l'a vu récemment sur le Covid. La surreprésentation des personnes qui sont originaires de première ou deuxième génération d'ailleurs d'un pays autre que la France et particulièrement l'Afrique subsaharienne, la surreprésentation dans les populations qui sont concernées là en l'occurrence par les IST, c'est vraiment lié aux conditions de vie et aux difficultés d'accès au système de soins. Et c'est pas des modèles de tradition qui seraient importés d'un pays d'origine qui les empêcheraient d'avoir des attitudes de prévention. On le voit, et c'est intéressant de souligner, c'est pas que sur les IST, c'est pas que sur le VIH, on a vu exactement la même chose sur le Covid. On a tendance à vouloir culturaliser à outrance ces différences.
Il faut préciser effectivement tout cela. 18h41 sur France Culture, nous posons cette question, la crainte des infections sexuellement transmissibles a-t-elle disparu? Nous avons avec nous Nathalie Bajos, sociologue et présidente du Conseil national du SIDA. Nahan Mouhim, qui est directrice du Checkpoint Paris, un centre de santé sexuelle dédié aux personnes LGBTQI+, et aux travailleuses et travailleurs du sexe. Et Dr Victoria Manda, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Le préservatif a montré son efficacité. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en présentant la PrEP comme un truc hyper facile, hyper simple, qui va permettre d'avoir une sexualité super épanouie, on a l'impression de dire que les gens qui mettent le préservatif sont des ringards, on ne parle plus du préservatif. Quand on a commencé à constater que les gens utilisaient moins le préservatif, au lieu de les encourager, au lieu de réfléchir des préservatifs, on a fait des progrès technologiques aussi. Il y a des préservatifs qui sont plus fins, il y a des tailles différentes, il y a des choses comme ça, de mode d'emploi, de shopping, je dirais presque, qui n'ont jamais été expliquées à la population, quoi. Donc, au lieu de relancer une campagne avec un moyen qui marchait, on a préféré aller vers d'autres outils de prévention. Au lieu d'encourager ce qui marchait, on savait que ça marchait, et en plus ça marche pour toutes les IST, on va être obligé d'y revenir avec les IST. Parce qu'on n'a pas parlé là, cette année de l'épidémie de syphilis qu'il y a actuellement. Mais c'est complètement incroyable, incroyable.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Ça n'est pas l'épidémie de syphilis d'aujourd'hui, puisque c'est un enregistrement de Hervé Latapy, militant gay historique sur France Culture. C'était en 2018, il parlait justement déjà de cette question, choisir ou pas le préservatif par rapport à la PrEP. Quand on entend un militant historique comme Hervé Latapy, qui a été un des fondateurs d'un des plus gros lieux de rendez-vous gay à Paris depuis maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années, qu'est-ce que ça vous dit justement de ces discussions qu'il peut y avoir entre les uns et les autres sur la question des infections sexuellement transmissible à Nahan Mouhim?
Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument voir la sexualité de façon positive. Et encore une fois, pas se dire qu'un outil remplace un autre, c'est pas la compétition de la PrEP et du préservatif, etc. C'est de pouvoir diffuser l'information qu'il est important de se faire dépister, et notamment chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, tous les trois mois, de se faire dépister, de promouvoir la vaccination contre l'hépatite A, contre l'hépatite B, le papillomavirus, et aussi de dire, alors là, on a, en 2022, on a permis la possibilité, la prise en charge à 100% du dépistage des IST chez les moins de 26 ans, il faut absolument l'étendre à l'ensemble de la population, et pas s'arrêter aux moins de 26 ans.
Et pour vous, qui travaillait depuis si longtemps, Nathalie Bajos, sur les comportements sexuels des Français, justement, cette question de l'éducation ou de l'enseignement sexuel, je ne sais pas comment on peut dire, pourquoi est-elle aussi mal faite, aussi mal développée, pour que justement toutes ces questions dont on discute depuis maintenant 40 minutes soient aussi peu connues du grand public?
Oui, c'est un enjeu majeur parce qu'en fait, c'est le socle, hein, c'est le socle de tout ce dont on discute. Et effectivement, la question d'avoir une approche positive de la sexualité, de pas aborder les questions de sexualité que par les enjeux liés aux des enjeux de santé, c'est déjà c'est le point majeur à souligner, c'est qu'il faut qu'il y ait une véritable éducation à la sexualité dès le plus jeune âge, pour parler de la sexualité dans toutes ses dimensions, dans cette approche positive, et de la santé sexuelle qui, d'ailleurs, il faut le rappeler, enfin je veux dire, ne se centre pas que sur les maladies, mais c'est le bien-être, la possibilité d'avoir une vie sexuelle choisie, sans coercition, sans discrimination, et d'être à même de se protéger d'un certain nombre de risques. Alors vous posez la question cruciale, mais je n'ai évidemment pas la réponse. Pourquoi la loi n'est pas appliquée? matière de...
C'est au minimum 3 fois par an, mais
oui,
ça n'est pas le cas.
Au minimum 3 fois par an avec des séances de 2 heures. Alors non seulement le dernier rapport du Conseil à l'égalité qui avait travaillé sur le sujet en 2019 avait montré que c'était très peu appliqué dans beaucoup d'établissements, pas du tout, et dans d'autres pas sur les 3 séances. Ensuite, il y a un vrai problème de qui assure ces formations, parce que c'est pas donné à tout le monde de parler de sexualité, et les jeunes n'ont pas forcément envie de voir leur prof de SVT leur parler de sexualité. Et puis, je dirais que le problème aussi extrêmement important, c'est qu'est-ce qu'on dit ? Comment on parle de sexualité aux jeunes ? Alors là, il y a un travail, on est dans une période un peu charnière, parce que ça mériterait de consacrer une émission entière au sujet.
On a fait une émission il y a très peu de temps sur cette question-là, il y a quelques mois. Non, mais c'est
pas
grave,
tous les
auditeurs ne l'ont pas écouté non plus.
C'est juste pour dire que le ministère de l'Éducation nationale vient de sortir des nouvelles propositions il y a 15 jours, qui propose un programme qui est adapté aux différents niveaux de scolarité, et que là, il y a un enjeu majeur pour que, moi j'ai commencé à le regarder, j'ai pas eu le temps de le regarder très très en détail, mais véritablement, si on met pas en place une véritable politique d'éducation à la sexualité avec une approche positive de la sexualité et une approche de santé sexuelle, eh ben, on obère forcément par la suite tout accès à des sensibilisations et à la prévention dans ce domaine.
Et d'ailleurs, vous qui travaillez en tant qu'infectiologue à l'hôpital Saint-Louis, Victoria Mandat, est-ce que vous percevez que les générations antérieures, les générations de mon âge, nées dans les années 60, les années 70, etc., ont une difficulté, peut-être justement, à parler sexualité, y compris aux médecins que vous êtes ? De pratiques sexuelles et donc de pouvoir essayer de déterminer ce qui a provoqué telle ou telle infection ou ce qui pourrait provoquer le fait de donner les maladies en question à d'autres partenaires.
Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que vraiment cette stigmatisation autour des infections sexuellement transmissibles, malheureusement, elle est toujours présente. On l'a vu avec l'épidémie de la variole du singe, le Mpox en 2022, qui a été terrible pour les personnes qui en ont été atteintes, avec une énorme culpabilité, une crainte de transmettre l'infection, soit des partenaires, soit de la famille. Ça reste encore vraiment des grosses séquelles pour ces patients qui l'ont vécu. Et donc, on voit bien qu'il y a toujours cette stigmatisation, cette culpabilité qui est rattachée aux infections sexuellement transmissibles, qu'on essaie bien évidemment de faire disparaître. Et donc, effectivement, je peux que rejoindre les propos de Nathalie sur l'importance de l'éducation à la santé sexuelle à l'école, avec vraiment cette prise en charge globale de la santé sexuelle, avec le bien-être mental, physique, émotionnel, social, enfin, cette prise en charge globale. Et ça, oui, ben c'est sûr que ça part à l'école et ça commence à l'école.
Et vous, au Checkpoint, donc ce centre de santé sexuelle donc à Paris, à Nan Mouim, vous notez cela ou vous avez des gens qui viennent vous voir qui sont, disons, plus alerté de ces questions de santé sexuelle et de ces questions d'infection sexuellement transmissible que d'autres.
Alors, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Il y a une stigmatisation qui est liée aux IST et particulièrement au VIH. Et c'est un frein psychosocial à la santé. Ça crée du renoncement aux soins. Enfin, c'est-à-dire que on a des personnes qui viennent consulter au Checkpoint, que ce soit des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, que ce soit des femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes, qui nous disent... Bah, en fait, ça fait 4 ans, 5 ans que je ne me suis pas fait dépister. Je pense notamment au dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes. Voilà, parce que aussi les soignants, et je parle aussi en tant que soignante, on n'est pas exempte de représentation sociale fausse. Voilà. Et on doit aussi nous-mêmes, en tant que soignants, s'éduquer. Voilà, à parler de sexualité de façon positive, à ne pas porter de jugement de valeur et à aider, enfin, à laisser le patient, enfin, la personne qui consulte, parler librement de sa sexualité, de ses pratiques, voilà, pour pouvoir le conseiller, l'aiguiller sur les différents modes de prévention.
Mais est-ce que la question des modifications comportementales, je vais dire un nom ici qui va peut-être vous faire réagir, celui du docteur Éric Combes, qui il y a 2 ans avait publié un livre qui s'appelait qui s'appelait Sexe, les nouveaux dangers. Est-ce que la question des comportements, des changements de comportement qui permettraient justement d'éviter la propagation des IST est une question importante, ou est-ce qu'on peut simplement se poser sur la question, nous avons des médicaments, nous avons le dépistage, faisons en sorte que tout cela permette d'éviter que les gens soient, disons, infectés en plus grand nombre, Nathalie Bajos?
D'une manière générale, je dirais que tout ce qui peut permettre d'éviter que les gens soient confrontés à une maladie quelle qu'elle soit, c'est la base même de la santé publique. Après, sur les modifications de comportement, je crois que le point important...
Par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'abandon du préservatif,
oui,
au
absolument.
Profit et d'autres...
Mais quand on parle, on insiste toutes sur les enjeux autour d'une véritable éducation à la sexualité et d'une reconnaissance de la diversité des sexualités, c'est fondamental parce que on peut dire, pour le dire dans des termes très simples, finalement, l'homophobie, c'est sans doute le facteur de risque le plus important de la diffusion de l'épidémie d'infection à VIH et des IST. C'est un facteur social, donc c'est pas que des pratiques, c'est des normes. Je veux dire, le fait de faire comprendre aux gens, aux jeunes, qu'il y a différentes formes de sexualité et qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, etc., c'est absolument majeur et ça permet d'éviter que les gens se trouvent dans des situations où ils vont d'abord s'exposer davantage au risque et ensuite avoir plus de difficultés à accéder au système de soins.
Le gouvernement a évoqué la possibilité, et on est assez avancé dans ce domaine, de changer l'AME, l'aide médicale d'État, d'ici cet été. Vous parliez tout à l'heure des personnes migrantes qui parfois bénéficient de cette AME. Est-ce que ça changerait quelque chose sur la capacité de dépistage? Est-ce que ça changerait quelque chose, Anan Mouhim, justement, sur peut-être une augmentation encore postérieure après le changement de cette AME?
Ce serait une catastrophe.
Ouais.
Je ne sais pas comment le dire autrement. Ce serait une catastrophe et ce serait absolument contre-productif en termes de santé publique.
Oui, et pour vous, Victoria Manda?
Oui, je suis entièrement d'accord. Bien évidemment, ce serait une catastrophe. C'est-à-dire que ça mettrait vraiment à plat tous nos efforts de dépistage, de diagnostic, de traitement dans les populations les plus vulnérables. Je rappelle quand même que sur l'infection du VIH, les patients qui sont nés à l'étranger, que ce soit des femmes, des hommes, peu importe leur orientation sexuelle, sont le seul groupe à risque qui ne diminue pas, pour lequel il n'y a pas de diminution des chiffres de découverte VIH. Donc, il faut vraiment qu'on continue à dépister chez ces personnes, il faut vraiment qu'on continue à les diagnostiquer, à les traiter comme tout le monde, et donc, effectivement, ce serait une catastrophe que l'AME disparaisse.
On a vu, et peut-être cela est-il non pas une révolution médicale, mais une évolution médicale intéressante, la PrEP injectable, c'est-à-dire que désormais, pour l'instant, les personnes qui prennent la PrEP la prennent régulièrement par des médicaments. Est-ce que le fait de la prendre, je crois, c'est une fois tous les 15 jours
ou tous les deux mois,
Est-ce que cela changerait aussi des choses par rapport à ce dont on discute depuis le début de cette émission, Victoria Manda?
Oui, peut-être. C'est vrai qu'on a déjà des belles études qui ont été menées, notamment en Afrique. On a vu que chez les femmes, la PrEP en injectable eh bien marchait mieux que la PrEP en comprimé. Donc ça peut donner des beaux espoirs pour ces femmes et ces populations à risque. Chez l'homme, c'était à peu près comparable. Mais bon, encore une fois, au plus on a des outils innovants pour lutter contre les infections, au plus il faut s'en servir et pas tout le monde aime prendre un comprimé tous les jours et certains préfèrent des injections tous les deux mois. Donc si ça peut aider la lutte contre le VIH, il faut le promouvoir.
Pour vous, Nathalie Bajos, j'ai cru voir dans les statistiques à propos de ces IST, ces infections sexuellement transmissibles, il y avait une surreprésentation, c'est ce que j'ai cru lire, des 18-25 ans, c'est-à-dire que les jeunes sont plus touchés. Qu'est-ce que vous qui avez beaucoup enquêté sur justement cette question de la santé sexuelle dans tous les âges, qu'est-ce qui explique cela, selon vous?
Alors, en fait, on va revenir à ce qui a été dit au début de l'émission, c'est que les jeunes sont aussi beaucoup plus dépistés que les personnes âgées. Donc, cette augmentation des IST, on peut pas dire avec certitude, ce qui relève d'un meilleur dépistage et d'une augmentation réelle des cas d'infection qui pourraient renvoyer à une diversité croissante de l'activité sexuelle, un moindre accès aux préservatifs. C'est des hypothèses sur lesquelles on travaille et on aura des réponses très prochainement. Mais peut-être souligner que même si les jeunes sont parmi les plus dépistés, le niveau de dépistage reste encore largement insuffisant. C'est-à-dire qu'il y a eu des progrès, on l'a rappelé au début de l'émission, spectaculaires dans l'évolution des pratiques de dépistage, mais on est encore à un niveau largement insuffisant, en particulier auprès des personnes, des groupes sociaux les plus précaires.
Anan Mouhim, sur cette question des jeunes, de cette tranche d'âge particulière?
Oui, il faut. Je vous rejoins. Enfin, effectivement, il y a on voit une augmentation croissante du dépistage et on dépiste mieux, il me semble, puisque on diagnostique plus de d'IST, donc on dépiste mieux. Cela dit, je pense qu'il y a un discours de prévention auprès des jeunes et notamment qui doit se faire, on en revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure, qui doit se faire notamment à l'école, voilà, de promouvoir le dépistage, de promouvoir la vaccination. Enfin, j'ai l'impression de redire la même chose.
Non, mais il faut le dire.
C'est promouvoir le dépistage et promouvoir la vaccination en fonction aussi de des rapports sexuels qu'on a.
Est-ce que, puisque ce rapport qui a été rendu par une autorité européenne de santé il y a une quinzaine de jours était un rapport européen, est-ce que l'on voit différence de soit de pratique, soit de développement de maladies sexuellement transmissibles selon les pays, ou est-ce que c'est simplement, comme on le dit depuis le début de cette émission, que tout le monde ne dépiste pas pareil? J'ai cru comprendre que l'Autriche et l'Allemagne donnaient des données extrêmement faibles par rapport à ce que peuvent donner la France ou d'autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez, Victoria Manda?
Oui, effectivement, sur le recueil des données, on n'a pas les mêmes systèmes. Nous, en France, c'est vrai que c'est Santé publique France qui fait un énorme donné, notamment auprès des CEGID, les centres de dépistage de diagnostic gratuit et anonyme, et également auprès du système national des données de santé. Toutes ces données remontent en lien avec les centres nationaux de référence des IST et ils sortent des analyses tous les ans, les dernières en date, donc c'est décembre 2023. Mais effectivement, pas tous ces pays ont les mêmes recueils de données.
Est-ce qu'on peut vous dire, Nathalie Bajos, qu'on est content de voir une sociologue arriver à la tête du Conseil national du SIDA, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique les sciences sociales, parce que les sciences sociales sont utiles, y compris dans ce domaine?
Ben écoutez, oui, on peut dire merci beaucoup. La mission du Conseil national du SIDA et bientôt de la santé sexuelle, c'est de conseiller les pouvoirs publics sur les questions sociales et éthiques autour de la question de l'épidémie de SIDA et de la santé sexuelle en général.
Donc ça n'est pas qu'une question de profession médicale.
Absolument, mais c'est la nécessité de travailler les sciences sociales en étroite collaboration avec les professionnels de santé. Et c'est ça la perspective large qui permet d'être, de répondre aux missions et d'essayer d'apporter une contribution efficace sur tous ces enjeux.
Vous qui êtes une profession médicale, oui. Victoria Manda, vous êtes d'accord?
Oui, je ne peux qu'acquiescer. Effectivement, on l'a dit, la santé sexuelle, c'est une prise en charge globale, holistique, et il faut qu'on soit tous ensemble. On voit bien que si on n'est pas tous ensemble réunis, on ne pourra pas y arriver. Donc oui, c'est nécessaire.
Alain Mouhim?
Oui, complètement. Je rejoins. De toute façon, on le voit bien, mais ne serait-ce que dans les études qui sont faites. On a parlé de parcours, on peut parler des races, on peut parler. Enfin, évidemment qu'on a besoin des autorités de santé, des sociologues, des personnes concernées aussi.
Des associations,
la santé communautaire, c'est absolument indispensable. Et évidemment des professionnels de santé. Et puis on a besoin surtout de simplifier l'accès aux soins. C'est plus possible que ce soit le parcours du combattant pour aller se faire dépister. Il faut simplifier les choses. Il faut envoyer des kits de prélèvement, des kits d'autodépistage, comme on le fait pour le cancer colorectal. Il faut qu'on puisse envoyer des kits de dépistage à domicile, qu'on puisse multiplier le dépistage.
Merci en tous les cas à toutes les trois. Merci à vous, donc Anne Mouhim, directrice du Checkpoint Paris, un centre de santé sexuelle dédié aux personnes LGBTQI+, et aux travailleuses et travailleurs du sexe. Merci à vous, docteur Victoria Manda, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et merci à vous, Nathalie Bajos, sociologue et nouvelle présidente du Conseil national du SIDA, qui changera bientôt de nom d'après ce qu'on a cru comprendre. C'était le temps du débat, préparé ce soir par Mathias Mégy, Fanny Richer, Candice Bergeron, Anouk Sevenot, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Brice Garcia, avec à la technique Marie-Claire Oumabadi.